Vous écoutez France Culture.
Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, les Grecs et le divin.
Dans la tradition occidentale, et particulièrement depuis le moment à la fin du Moyen-Âge où nous avons redécouvert Platon, à l'occasion du concile de Florence, ce concile où orthodoxes et catholiques se retrouvent et essaient de refaire l'unité devant la menace turque sur Byzance, et où Platon a été ramené dans un Occident qu'il avait largement oublié au profit d'Aristote, on peut dire que nous avons une image qui s'est bâtie peu à peu de Platon et derrière Platon des Grecs, qui est une image extrêmement convenue et qu'il s'agit peut-être aujourd'hui de redécouvrir. Et de ce point de vue-là, il faut bien dire que quelqu'un comme Heidegger, à travers sa réflexion précisément sur les textes fondateurs de la pensée grecque, à travers sa réflexion en même temps sur la langue grecque, nous a beaucoup aidé dans cette redécouverte. Et Platon et ou les Grecs sont généralement associés à ce qu'on a appelé l'humanisme, qui souvent est un humanisme assez flou, si l'on peut dire, assez tiède en quelque sorte, et dont on peut se demander si la période n'est pas passée et s'il ne convient pas de revenir à la suite des travaux de la philosophie moderne, à la suite des travaux de quelqu'un comme Walter Otto, au rapport réel que les Grecs avaient avec les dieux à travers la philosophie, mais à travers la poésie en même temps, et éventuellement dans cette période charnière qui est le moment de l'apparition de la tragédie. Pour nous accompagner dans cette redécouverte, nous avons avec nous aujourd'hui Jean L'Auxerrois, qui est professeur agrégé de philosophie en classe préparatoire à l'École normale supérieure et qui a traduit, par exemple, le livre 6 de l'Éthique à Nicomaque et qui a traduit surtout le Ion de Platon, une nouvelle traduction qui nous permet de, précisément de le redécouvrir dans la chaîne magnétique et dans l'enthousiasme du poète que nous décrit Platon, publié aux éditions Pocket, et qui a traduit aussi l'essai de Walter Otto sur le sens grec du divin aux éditions du Grand Est. Et où donc, sans aucun doute, à travers tout ce travail d'explication avec le texte qu'il a eu à faire, on voit comment s'est nourrie une étude la plus en profondeur possible, qui change presque radicalement la vision que nous avions des Grecs.
Je pense à cette phrase de Nietzsche qui dit que la parole du passé est toujours parole d'oracle et c'est seulement en constructeur de l'avenir qu'on peut l'entendre. Et je crois qu'aujourd'hui, précisément parce que la question de l'homme se pose multiplement, les Grecs ont beaucoup à nous dire au-delà de la convention, au-delà des stéréotypes, au-delà des clichés, de la tradition qui se voudrait entre guillemets classique ou patrimoniale.
Moi, je reconnais que lorsque j'ai fait mes études, par exemple, je dirais l'éloge de la folie chez Platon, dans le Phèdre, ou la manière dont on montre le poète inspiré dans cette sorte de chaîne magnétique à partir des muses, là, c'est quelque chose dont on ne m'avait jamais parlé. Mm-hmm. Et finalement, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on redécouvre depuis quelque temps, simplement ?
Ah oui, certes. Là, pour le coup, la tradition y est pour beaucoup, puisque Le texte de Dullion est un texte extrêmement connu, canonique, notamment depuis Marcille Ficin et l'avenir qu'il a donné à ce texte dans le rapport philosophie-poésie. Et au bout du compte, et notamment parce que le fameux mot de mania y est traduit par délire, l'accès à la question que les Grecs posaient avec le mot mania est bloqué. D'une certaine façon, on pourrait dire que on ne peut pas comprendre la mania sans comprendre ce qui se joue entre l'homme et le dieu. Ce que Platon a voulu évidemment confisquer, c'est cette aventure tragique, dionysiaque, qui advient lorsque l'homme et le dieu sont face à face ou dans la rencontre. Donc, la philosophie, j'entends évidemment le platonisme comme héritage de la pensée de Platon, a beaucoup contribué à gauchir ce qui était l'enjeu primordial de ce texte canonique qui était le Ion et qui anticipe bien évidemment à la fois sur la République d'un côté et sur le Phèdre de l'autre. Donc je crois que, et on le voit aujourd'hui encore, peut-être plus que jamais, la difficulté où nous sommes avec la question de la folie, qui est un trou noir absolu de la pensée occidentale et de notre civilisation et bien évidemment de la société qui lui correspond. Donc ce trou noir doit être explicité, réinterrogé, et pour le coup, là encore, descendre plus avant dans son propre secret, c'est tenter de comprendre quelle est la racine de cette mania grecque qui se jouait évidemment autour de Dionysos, comme dit Homère, le dieu fou. Comment les Grecs ont-ils pu mettre un dieu fou au cœur de la cité dans l'expérience notamment du théâtre qui était pendant un siècle au cœur d'Athènes.
À l'autre défaille les genoux et le cœur. Il lâche la lance et tombe assis, les mains tendues, les deux mains. Achille dégaine son glaive aigu, frappe à la clavicule le long du cou. Et tout entier plonge le glaive à deux tranchants. Lui, sur la face, à terre, gît étendu, et le sang noir s'écoule en humectant la terre. Homère, l'Iliade.
Pensons à ce que le tragique peut vouloir dire, pour essayer aussi de comprendre comment les Grecs pensaient, voyaient, vivaient l'homme, je dirais comme d'abord le mortel. Et le mortel impliquait ce qu'on pourrait appeler un défaut d'être radical. L'homme n'est pas une nature, l'homme n'est pas une identité, il est d'abord et avant tout le défaut dans le rapport à sa propre mort au regard du divin. C'est ce que la tragédie tente d'exposer précisément sur la scène pour un public, pour une communauté à construire autour de cette problématique.
Si ce n'était pas pour Dionysos qu'ils font la procession et chantent l'hymne du phallus, ce seraient des actions de la dernière impudence. C'est un seul et même être que Hadès et Dionysos, pour qui ils délirent et font les bacchants. Héraclite.
Est-ce que d'une certaine manière, Jean Lauxerrois, nous n'aurions pas été victimes, je dirais, d'une lecture un peu trop rapide de Nietzsche, c'est-à-dire dans cette division entre l'apollinien, d'une part, tout ordre, toute lumière, toute mesure, et puis le dionysiaque, dans la mesure où, enfin, si je me rappelle bien, au temple de Delphes, on sait très bien qu'Apollon s'absentait pendant plusieurs mois de l'année, remettait le sanctuaire à Dionysos d'une certaine manière, et que de se dire il n'y a pas de lumière sans ombre, comme il n'y a pas d'ombre sans lumière.
Évidemment, Nietzsche est un moment fort de la réapparition de la tragédie. On ne peut pas lui enlever cette intuition prodigieuse sur fond de kantisme, sur fond de scientisme, sur le fond de positivisme à l'époque. Il n'empêche, en effet, même s'il dit lui-même que Apollon et Dionysos sont profondément liés, qu'on ne peut pas les disjoindre. Néanmoins, clairement, je pense que la question du dionysiaque reste approchée de manière trop courte chez lui. La question de la folie, également, Je crois que c'est précisément de ce côté-là qu'on peut encore, toute révérence gardée, penser que Nietzsche peut être poussé plus loin. Et je pense que justement, le rapport que l'on peut établir entre les remarques sur Antigone et Œdipe de Hölderlin et la pensée nietzschéenne nous montre bien l'écart entre ces deux pensées et dans quelle direction on peut encore pousser plus loin la recherche.
Parce que d'une certaine manière, Hölderlin ne s'était pas avancé plus avant, si on peut dire, dans la pensée grecque, que ne l'a fait Nietzsche réellement. Encore que Nietzsche, c'est toujours pareil. Il faudrait le relire tel qu'il écrit réellement et non pas tel qu'on en a bâti la légende.
Il est vrai que la pensée poétique de Hölderlin est indépassable. Je pense qu'on ne peut pas, pour l'instant, trouver texte et aventure spirituel aussi, dans le cas du poète, plus aigu et plus brûlante que ses remarques sur Antigone, qui ont beaucoup à nous apprendre sur le rapport des Grecs à eux-mêmes, sur les rapports des Grecs à nous et à l'Occident. Il avait eu une intuition magnifique qui l'a poussé jusque dans la traduction précisément. Et je pense que c'est cette manière si aiguë de saisir le monde grec qui a profondément inspiré Walter Otto et qui a évidemment aussi beaucoup marqué Heidegger.
Mais alors, cette folie, Jean-Jacques Seurat, vous nous dites qu'il faudrait la revisiter afin de la recomprendre, de ne pas être victime simplement de la traduction de Marcel Ficin dans la Florence de la toute fin du Moyen-Âge. Mais que signifie-t-elle au juste? Parce que même lorsque nous parlons de folie dans notre langage, on oublie que folie, ça vient du folis latin, c'est-à-dire le souffler, et que donc c'est une espèce de souffle qui passe. Comment est-ce qu'on peut entendre cela au juste?
La question de la folie, je crois, passe avant tout par la compréhension que la rationalité telle qu'elle a triomphé dans l'Occident ne peut pas être la pierre de touche selon laquelle évaluer l'être humain. Donc l'humain, dans ce qu'a été sa définition restrictive, pourrait-on dire, à la fois rationnelle, subjective, autoréférentielle, a d'une certaine manière perdu le sens de ce que pouvait être à l'homme lui-même, sa propre, si je puis dire, transcendance. C'est en ce sens que non seulement la folie, mais la question de l'imagination a été radicalement méconnue de la tradition philosophique. C'est tout de même sidérant. Sur ce point, Ricoeur a tout à fait raison de nous dire que la philosophie nous laisse un champ de ruines sur la question de l'imagination. L'imagination, ce n'est pas simplement une faculté parmi d'autres. C'est la racine fondamentale de notre rapport au monde et de notre rapport au temps, de même que notre rapport à nous-mêmes et de notre rapport au divin. En ce sens, je crois que le mot « imaginal » que Corbin propose pour traduire le « alam al-mital » de la pensée iranienne, par exemple, est un mot précieux dans la mesure où il nous dédouane à la fois de la tradition de l'imaginaire, de ce qu'elle porte avec elle de fiction, d'irréalité, etc., pour nous permettre au contraire de comprendre qu'il y a une sorte de puissance de l'image qui est originaire. Et la folie passe par cette dimension-là, c'est-à-dire cette dimension qui va, contrairement à ce que la tradition philosophique a mis en valeur, comme la conscience, la lucidité éveillée, etc., au contraire de montrer à quel point la puissance, non pas du rêve seulement au sens où l'a exploré Freud, mais le rêve éveillé, l'hallucination, le demi-sommeil, tout ce qui représente ces demi-états de conscience doivent être repris précisément au sérieux pour comprendre quelle est cette puissance de l'imaginal qui peut évidemment être à la source de ce que Baudelaire appelle l'être poétique de l'homme. Pour reprendre votre question concernant la folie, la folie, ne peut pas être définie par rapport à une espèce de normalité qui elle-même est introuvable. La psychiatrie la plus lucide et la plus honnête sait très bien qu'il n'y a pas de possibilité de diagnostiquer la normalité. Il n'y a que des états qui sont qualitativement et quantitativement mesurables, entre guillemets. C'est-à-dire, lorsque le mot psychiatrie a été fondé, on le sait, dans les années 1840, on sait très bien que son objet est introuvable. Donc c'est bien ce qu'on appelait tout à l'heure ce trou noir de la folie qui doit être réexposé, réexaminé à la mesure précisément d'une idée de l'homme qui n'est plus simplement racidé dans sa seule rationalité comme définition, on peut dire, identitaire et quasi-narcissique de lui-même.
Andromaque criait à ses servantes aux beaux cheveux, par la demeure, de mettre auprès du feu un grand trépied, afin qu'il y eût pour Hector un bain chaud au retour du combat.
La naïve. Elle ne savait pas que bien loin des bains chauds, le bras d'Achille l'avait soumis, à cause d'Athéna aux yeux verts. Homère, l'Iliade.
Lorsque vous réfléchissez ainsi sur l'imagination, Jean-Luc Serrois, et en faisant allusion à l'imaginal de Corbin, effectivement, c'est Alam el-Mittal des philosophes iraniens, est-ce qu'il ne faudrait pas retrouver la formule dont s'est beaucoup servi, on le sait, l'alchimie occidentale, lorsqu'elle parle de imaginatio vera non fantastica, faisant la différence justement entre l'imaginaire et l'imagination en tant que créatrice, on peut dire. Et est-ce que de ce point de vue-là, il ne faudrait pas revenir à la racine même du mot grec fantasia, dans lequel le radical, c'est d'abord ce qui brille, ce qui apparaît, c'est-à-dire où l'imagination est la production d'une présence.
La question du phénomène, précisément, avec cette racine du phainestai qui regarde aussi bien du côté de la fantasia que du phainoménon, mais aussi, comme le dit bienheureusement et lumineusement le Phèdre, dans un passage qui a été relativement, voire complètement sous-estimé par la tradition, le fameux phasma. Donc, ce qui est important au fond, c'est de saisir que cette imagination, elle n'est pas simplement, même s'il a raison de le dire, la reine des facultés, comme dit Baudelaire, elle est ouverture à ce qui apparaît comme éclat. Je traduis phasma par la manifestation. Cette manifestation, elle est précisément rien comme telle, mais elle ouvre la possibilité que quelque chose nous apparaisse, à la mesure de quoi, précisément, l'imagination peut déployer sa créativité, sa fonction primordiale, après, comme le dira Kant, de schématisme, de l'entendement, de mise en rapport de la sensibilité. Mais tout ça n'est que secondaire au regard de ce rapport fantastique, entre guillemets, à cette manifestation originaire, pourrait-on dire.
Si je vous comprends bien, d'une certaine manière, vous réintroduisez, pour aller vite, la différence que faisait un poète comme Coleridge, par exemple, entre fancy et fantasy. Et ce qui était de l'ordre de l'imaginaire, ce qui était de l'ordre, effectivement, de la présence et de la présence réelle.
Voilà.
Et comprendre que dans l'imagination, c'est une présence réelle.
C'est une présence réelle qui, au demeurant, est un appel à l'œuvre. Elle est un appel à l'incarnation. Elle est un appel au devenir. C'est-à-dire qu'elle porte avec soi, en puissance, cette energeia, dirait Aristote, qui... Et on le voit chez des gens encore comme Balzac à propos de Vautrin ou comme Proust quand il évoque la création, elle ouvre, elle est en devenir. Quelque chose advient et quelque chose devient. Autrement dit, c'est toute la construction, c'est tout l'appel à la mise en œuvre poétique, à la poiesis qui est évidemment ici en jeu. Il ne s'agit pas simplement de réel et d'irréel. Proust a un très, très beau mot là-dessus. Il dit « Je construis une réalité à mi-hauteur ». Donc, on est à la fois dans l'irréel, mais en même temps dans le monde, à l'inverse de ce que Sartre avait pu dire dans l'imaginaire, où il produit l'irréel comme un anti-monde. Mais c'est l'inverse. L'œuvre se construit précisément dans un rapport au monde qu'elle va même transformer, puissamment parfois, même si c'est à pas de colomb, dirait Nietzsche.
Il se pose un problème qu'il faut arriver à régler, c'est-à-dire que à travers cette présence, à travers ce qui se donne à voir, est-ce que en même temps, ce n'est pas, je dirais, tout un vocabulaire philosophique que nous avons mal compris? Je veux dire, je prends un exemple simple, évidemment, le fameux Eidos platonicien que nous avons toujours traduit par idée. Or, Eidos, on sait très bien que ça vient d'un radical indo-européen, Wade, qui veut dire voir, justement. Et l'Eidos, on le sait, c'est parent en latin avec le videre, ce qui est évident, donc ce qui est de l'ordre de la vision. Et est-ce que c'est pas la même chose que de dire que l'Eidos est quelque chose qui se voit, et une sorte de figure qui se donne, si l'on peut dire, que de dire que c'est une idée abstraite?
On va dire que, évidemment, la notion d'idée qui a fait tradition est la plus mauvaise manière de rendre la puissance de l'Eidos platonicien. L'étymologie du mot nous permet, en effet, comme vous le dites, de regarder du côté du voir et de tenter de comprendre toute la dimension concrète de la relation à la présence, au phénomène. Il reste que, et c'est mon hypothèse dans le Yon, on peut encore franchir un degré, c'est-à-dire montrer que, et saint Augustin avait été le premier à pointer la contradiction qu'il y avait dans cet usage du visible et de l'invisible, on pourrait montrer en quelque sorte que le voir, qui est évidemment beaucoup plus que l'idée au sens intellectuel du terme, que le voir est encore insuffisant pour dire précisément le rapport à cette présence, à ce qui se donne. Au fond, parce que dans l'optique platonicienne, voir, c'est d'une certaine manière voir l'invisible. Si je suis dans un voir empirique, rien ne se donne en vérité à ma vue. Donc il y a un usage du voir qui fait problème et qui, d'une certaine manière, a aussi profondément déterminé l'avenir de l'esthétique dans la mesure où on a été dans une esthétique du visible. Si on franchit le pas que nous faisions tout à l'heure du côté de l'imagination et du côté du phasmatique, pourrait-on dire à partir du mot platonicien, nous sommes encore au-delà du voir. Au fond, voir n'est peut-être qu'à analyser justement dans son rapport à la source imaginative ou imaginale. Ce que Platon, au bout du compte, fait dans le Phèdre, c'est peut-être de dépasser ce qu'est la manière seulement eidétique au sens du visible de la République pour proposer une ouverture du côté de la mania, du côté du phasma, du côté, comme il dit aussi, de l'extasis. Donc il y a un rapport extatique de l'existence qui va plus loin que le simple voir qui nous ramène à une présence trop immédiate des choses.
Mais dans cette sortir de soi-même, si on peut dire, en essayant de trouver des équivalents français assez maladroits, est-ce que d'une certaine manière, il n'y a pas aussi un immense problème de l'invisible? Je veux dire par là que voir l'invisible, je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais est-ce que l'invisible, ce qu'à la limite je vais appeler Dieu selon la théologie négative, c'est-à-dire le Dieu dont on ne peut rien dire, est-ce que l'invisible n'est pas quelque chose qui se laisse voir et qui, en se laissant voir et en se dévoilant, se voile du même coup, ne fût-ce que pour préserver son mystère?
Ce qui se manifeste ne se manifeste qu'en dehors de soi et en même temps que dans le retrait. Et c'est bien toute la difficulté de la compréhension du phénomène, précisément. C'est ce que les Grecs avaient tenté de dire sans pouvoir le penser au fond dans la fameuse Aletheia, Au bout du compte, dans l'Aletheia, demeure toujours dans cette puissance de, entre guillemets, vérité en tant qu'elle est apparaître, en tant qu'elle est ouverte, il y a toujours un retrait qui est le Lethe, ce fleuve de l'oubli, le Lethe qui est la source véritable, le cœur véritable de la manifestation. Et en ce sens, Platon dit, c'est le cœur immobile, pur, intègre, intact de la vérité. Donc, je pense qu'on doit pouvoir comprendre le rapport entre la manifestation de ce qui se donne et le secret de la chose. Il faut garder le lien et évidemment, ensuite, toutes les grandes théophanies pensent dans cette direction. Il y a nécessairement à prendre en compte le quelque chose qui ne se donne pas comme tel et qui est la source possible de la présence.
J'aimerais bien qu'on en revienne aux folies pour essayer de les comprendre, Jean-Luc Serrois. Au-delà même de la folie première du poète telle qu'elle nous est donnée dans le Lion avant que ça ne devienne de la pure technique, un rhapsode qui connaît ses textes par cœur. Parce que si je me rappelle bien quand même les bonnes folies, si l'on peut dire, dont nous parle Platon, ces folies qui sont un bienfait pour l'humanité, dit-il, si je me rappelle bien, en gros, il y en a quatre. La folie télestique, donc Dionysos, la folie mantique, c'est-à-dire la pitié de Delphes, la folie poétique, les muses, la folie érotique, Aphrodite. D'une part, il y a un pouvoir divin qui est en jeu à chaque fois, et d'une certaine manière, ça suppose que l'homme, en fin de compte, soit totalement rempli par ce pouvoir divin, c'est-à-dire que l'homme, d'une certaine façon, se soit aussi vidé de lui-même, selon le sens que nous donnons d'habitude à ce mot « homme ».
Alors, dans le cas du Ion, il était évident que ce que fait Socrate est ambigu. Il essaye de dire qu'il y a en effet un rapport essentiel entre le poète et le dieu qui passe par la mania. Il est donc, comme il le dit, en dehors de soi. C'est d'une certaine manière déjà préfiguré l'extasis du Phèdre. Cette proximité entre le poète et le dieu est aussi, pour Socrate, contaminante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le poète est sur la scène, vous y faisiez allusion tout à l'heure, il y a la chaîne magnétique qui relie maillon après maillon le poète, le dieu et les spectateurs. Il n'empêche que la façon dont Socrate pose le problème dans Ion, et c'est le Socrate platonicien, c'est d'une certaine manière, dans l'ambiguïté même de son être, à la fois de préserver ce qu'il y a de puissant dans ce lien, et en même temps de rendre ce lien suspect. Il le dit à la fin du dialogue, le poète, dans la mesure où il est représenté par le rhapsode, devient un type injuste, qui est capable de l'injustice, qui est même capable d'incohérence, et qui devient dangereux pour la cité. Donc, il est clair que dans la République, cette question de la folie n'est pas abordée, et elle est reprise dans le Phèdre pour évidemment réhabiliter, comme vous l'avez dit, plusieurs manières de folie. Il reste que le point de départ n'a pas été digéré d'une certaine manière, même si, on l'a vu et on l'a dit, la manifestation et le phasma dans ce magnifique passage central du Phèdre se trouvent mis en avant. Pourquoi ? Bien parce que l'enjeu, je crois, c'est philosophie-tragédie. Et ce que Platon est, de manière, je crois, sévère et radicale jusque dans les lois, ce que Platon récuse, c'est la puissance que la tragédie a eue dans et pour la cité. Donc il y a, en quelque façon, le théâtre qui est à l'horizon de la problématique platonicienne. Et quand on dit la poésie, c'est pas simplement la poésie au sens où nous l'entendons. Il est question en réalité d'une scène, il est question de ce qui se passe sur la scène entre les acteurs et le public, et ce que Athènes, pendant un siècle, a institutionnellement mis au point, qui est unique dans toute l'histoire de l'humanité, qui est véritablement, pourrait-on dire, une véritable machine à écrire, puisque on organisait au moins une fois, sinon deux fois par an, de manière extrêmement précise et minutieuse et ritualisée, à la fois l'écriture des pièces, la sélection de la pièce, etc., et des pièces, puisqu'il en fallait 12 pour notamment les grandes Dionysies. Cette écriture annuelle est quelque chose d'inouï. C'est ce qui explique que Sophocle ait pu écrire 120 pièces, pense-t-on, il nous en reste 7 ou 8. Il y a une extraordinaire puissance de création qui est liée à la manière dont le théâtre, pendant le grand siècle d'Athènes, puisque la philosophie ne vient qu'ensuite, c'est, je le disais, inouï, c'est d'une productivité géniale, étonnante, et c'est précisément autour de cette idée de la folie que la cité peut aussi, d'une certaine manière, vivre et se construire.
Hector à Andromaque. Car je sais bien ceci dans mes entrailles et dans mon cœur. Un jour viendra où périra la sainte Ilion, et Priam, et la nation de Priam à la bonne lance. Mais je pense moins à la douleur qui se prépare pour les Troyens, et à Hécube elle-même, et à Priam le roi, et à mes frères qui, si nombreux et si braves, tomberont dans la poussière sous les coups des ennemis. Qu'à toi, quand l'un des Grecs à la cuirasse des reins te traînera tout en larmes, t'ôtant la liberté. Homère, l'Iliade.
Est-ce que véritablement on a affaire au même concept de poésie entre Homère et jusqu'à Sophocle et à partir du Ion pour le millénaire qui va suivre? Là, on peut en douter. C'est justement aussi pour nous l'occasion de redéfinir ce que peut signifier poète, poétique, ou encore, comme dirait Kostas Axelos, la poéticité. La poésie aujourd'hui est reléguée à l'ornementation, à l'expression de la subjectivité. C'est en quelque façon une espèce de rareté exceptionnelle. Bon, ça l'a peut-être toujours été, mais peut-être jamais à ce point. Peut-être que notre enjeu, avec, nous le disions, l'imagination, avec la question de l'image, avec la question de la poésie et de la folie, c'est aussi celui de la poésie. C'est la question de la poésie qui est reposée.
Mais est-ce que d'une certaine manière, Jean Le Serrois, cela ne nous amène pas à penser, je dirais, la poésie comme une sorte de la lave brûlante au cœur de notre vie, et non pas du tout, justement, comme une manière d'écrire des vers les uns après les autres, en respectant la métrique, en respectant les rimes? Bon, je sais qu'aujourd'hui, on ne le fait plus. Enfin, dans laquelle il y a encore tout un certain nombre de procédés, de formes, et où nous sommes, je dirais, dans la puissance de surgissement de quelque chose bien au-delà de nous, et qui nous fonde en tant que tel.
Je crois que lorsque Baudelaire parle de l'être poétique de l'homme, je ne vais pas me contenter de Baudelaire, parce qu'on pourrait aussi, jusqu'à René Char aujourd'hui, échelonner comme ça, échelonner quelques noms, mais le poétique est devenu une véritable dimension de pensée. Et elle n'est pas simplement... l'enjeu de la poésie baudelairienne. Elle n'est pas simplement une ornementation ou simplement un rapport au beau ou un rapport à la technique du vers. Elle met en jeu ce qui est ce que Baudelaire appelle la dualité de l'être de l'homme, le fini et l'infini. La question du divin est posée constamment de Baudelaire jusqu'à Char. Quand Char raisonne et parle et évoque les dieux de façon très étrange dans un XXe siècle qui ou ignore le divin ou le théologise de manière extrêmement réduite, Est-ce que, quand il dit les dieux, est-ce que ça n'est pas nous faire entendre aujourd'hui, poétiquement, que ce que les Grecs avaient pu penser sous ce terme, dans le rapport mortel-immortel, n'est pas précisément là le cœur du poétique, la lave incandescente dont vous parliez tout à l'heure, elle est sans doute toujours là, même si les voix qui la disent sont rares.
À toi, tout cet univers qui roule autour de la terre obéit, où que tu le conduises, et il consent à ta domination. Telle est la vertu du serviteur que tu tiens sous tes invincibles mains, à double tranchant, en feu, éternellement vivant, la foudre. Car sous son choc dans la nature, toutes choses frémissent. Par lui, tu diriges droit le Verbe universel qui, à travers toutes choses, circule mélangé à la grande et aux petites lumières et qui, par la grandeur de sa naissance, est roi suprême à travers tout. Hymne à Zeus de Cléante.
Jean Le Serrois, est-ce que lorsqu'on prononce le mot « les dieux », il ne faudrait pas s'entendre sur ce mot, dans la mesure où nous en avons une représentation très traditionnelle, si l'on peut dire, alors qu'on a l'impression que pour un grec ancien, je dirais, il sortait de sa maison, il prenait la route dans la campagne, il pouvait rencontrer Hermès au coin du chemin, et Hermès était là, il y avait une présence. Et on a l'impression que cette présence, elle est perdue aujourd'hui.
Ça, tout à fait. L'expérience du divin que les Grecs, en tout cas tels que Walter Friedrich Otto, essayent de nous en rendre compte, cette expérience-là, elle est très loin de nous. On pourra en dire deux mots tout à l'heure, mais je voudrais préciser que lorsque Char évoque les dieux, il l'évoque au sens de leur retrait, c'est-à-dire de ce qui a disparu, mais qui, disparaissant, demeure néanmoins question, comme une énigme et comme un horizon. Donc, il est clair que l'expérience ne peut plus être celle de la présence quotidienne dont vous parliez, mais elle est aussi, après, comme on peut le dire, 20 siècles de religion monothéiste, elle est en quelque sorte l'ombre portée de ce qui, ayant pour le positivisme définitivement disparu, demeure néanmoins question. Dans la mesure où le divin ne peut pas être réduit au singulier. Les Grecs avaient pensé de façon plus forte qu'on ne le dit, je pense, le rapport entre l'un et le multiple. Le monothéisme a voulu réduire le multiple, ce rapport entre l'un et le multiple, au nom de ce que le polythéisme aurait été une sorte de stade primitif de l'humanité. Or, il est possible au contraire de penser que les Grecs ont saisi dans le rapport de l'un au multiple quelque chose de plus profond du divin lui-même. C'est ce que Walter Otto, précisément, dans l'esprit de la religion grecque ancienne et dans les dieux de la Grèce tente de montrer. Et il essaie de montrer que plus haute que le monothéisme est la compréhension du lien entre l'un et le multiple. Donc pour les Grecs, cette expérience, elle est vraie dans Apollon, par exemple. L'oracle d'Apollon était quelque chose qui pouvait être tout à fait quotidien ou normal pour une existence grecque, mais Apollon, qui est un, est aussi multiple. Il est multiple parce qu'il hérite d'abord de traits anciens qui sont métamorphosés avec l'Apollon homérique, dont Otto montre bien que tout se récapitule dans le dieu de la limite. Donc, dans un dieu, il y a plusieurs visages, et c'est ce lien entre l'un et le plusieurs visages qui fait aussi le sens de la manifestation, comme on le disait tout à l'heure, du divin pour les Grecs. En ce sens-là, le divin n'est jamais autre chose que la rencontre. Pour un grec, la rencontre, c'est la possibilité de saisir la limite entre le mortel et l'immortel. Et cette rencontre est toujours, si j'ose dire, incarnée dans une, autodit, une gestalt, quelque chose qui prend figure et qui, dit-il encore, ouvre un monde. C'est-à-dire la rencontre, c'est toujours une sorte de, non seulement de saisie de l'homme dans son rapport au divin, mais aussi dans la façon de construire un site, un lieu, quelque chose qui fait habitation.
Est-ce qu'il n'y a pas Jean l'Auxerrois, enfin c'est l'écho que ça éveille en moi, et par rapport à ce que vous dites, est-ce que nous n'avons pas oublié le sens du mot théophanie ? Je veux dire par là parce que la théophanie permet justement de penser l'un sous le chef du multiple, et tout le temps, et pourtant il est un, tout en respectant son mystère, et en se rappelant que dans le fanny de Théo, il y a justement ce qui se montre, il y a cette présence qui se... Et ça me fait penser à un paragraphe d'Henri Corbin qui dit « Nous avons pensé le rapport de l'un du multiple, l'un se divise en deux, puis etc. etc. » Il dit « Mais nous pouvons aussi bien penser que un que multiplie un, que multiplie un, que multiplie un, c'est toujours un. Mm-hmm. » C'est-à-dire qu'on peut avoir de multiples visages sans toucher à l'unité. Et on a l'impression que là-dessus, quand même, nous l'avons complètement perdu de vue.
Totalement. Ça, c'est une chose qui nous est radicalement étrangère. Dans la pensée grecque, et pas seulement philosophique, je dis bien la pensée, qui est pensée poétique, par exemple, d'Héraclite, le rapport entre l'un et le multiple, ce qu'il appelle le « un tout »,« en panta », est au cœur de sa pensée du monde et de l'être. Donc, on ne peut pas imaginer pour un grec, mais je pense que c'est déjà vrai chez Homère, que pour un grec... le rapport entre l'un et le multiple soit incompréhensible. Au contraire, il est radicalement et toujours vivant. Donc, cette profondeur de la théophanie, elle doit être mesurée avec, chez les Grecs, quelque chose de spécifique. Il n'y a pas de possibilité de comprendre la théophanie sans le rapport à l'œuvre d'art. Poiesis. Ce serait cela l'unique... du monde grec, c'est qu'il n'y a pas de texte sacré, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas non plus de mythologie au sens où on le croit comme un texte établi. Le mythos grec, c'est précisément sa force, c'est d'être premièrement toujours en métamorphose, jusque dans la tragédie qui, là encore, transforme profondément, même jusqu'à se désister du mythe. Ça, c'est, je pense, un point capital, tout en restant au cœur de l'expérience du divin. Donc, ça, c'est le premier point. Et deuxième point, non seulement il n'y a pas ce texte fondateur qu'on trouve dans l'idée, on va dire, établie du religieux, mais deuxième point, la poiesis est la véritable manière de faire apparaître le Dieu. Donc, il n'y a pas de religion esthétique, bien évidemment, contrairement à ce qui a pu être dit au XIXe siècle, qui est une invention tardive et qui n'a rien à voir avec les Grecs. C'est au bout du compte l'œuvre et l'advenu de la présence. Et précisément, comme on le disait, c'est grâce à elle aussi que s'ouvre un site et que le monde devient, dirait Char, respirable.
Est-ce que d'une certaine manière, Jean l'Auxerrois, il ne faudrait pas revoir l'explication que nous donnons de poésie par rapport à la poésis, à laquelle vous faites allusion, de laquelle on rappelle toujours, ce qui semble quand même incontestable, que poésis vient du verbe grec poiein, le fabriquer, mais nous on l'entend toujours comme la fabrication d'un artisan. Ne faudrait-il pas l'entendre comme la fabrication de ce que Corbin appelait l'imagination créatrice, c'est-à-dire de ce qui crée son propre monde, et ce qui crée son propre monde parce qu'en même temps, c'est récepteur du monde des dieux. d'une certaine façon. Et donc, est-ce que de ce point de vue-là, on n'aurait pas besoin de revoir l'ensemble de notre problématique? De la même manière que je suis frappé de me dire que nous ne n'avons que deux catégories, ce qui est rationnel et ce qui est irrationnel. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas rationnel est irrationnel. Et est-ce qu'il ne serait pas intéressant de réfléchir d'une manière plus détaillé, disons, en disant il y a peut-être du non-rationnel, du rationnel, et puis de ce qui est au-delà du rationnel. Ce dont le rationnel ne peut pas rendre compte. Enfin, ce que moi, j'avoue, j'aurais tendance à appeler du transrationnel, d'une certaine manière.
Même dans La République, lorsque Socrate évoque le miroir que l'on peut promener comme ça autour de soi, il utilise le verbe poyène pour dire « toi aussi, tu peux faire... » entre guillemets, je vais faire, le monde. Mais ça ne veut pas dire le fabriquer. Ça veut dire le faire apparaître. Ça veut dire faire entrer en présence. Donc, voilà une attestation possible du sens fondamental du mot poyène pour les Grecs. Donc, la poiesis, c'est véritablement, d'abord et avant tout, faire entrer en présence. Faire advenir à la présence. Et je pense qu'on a mis l'occurrence qui l'atteste. Deuxième point, la poiesis n'est ni rationnelle ni irrationnelle. Ça n'est pas à l'aune de cette rationalité que s'évalue la création. Si extasis il y a ouverture, percée comme cela vers la chose telle qu'elle se manifeste, s'il y a la folie, ça peut être la transe dont Vautrin parle lorsque, dans cet équivalent de Balzac, il dit « je suis père, je suis mère, je suis fou ». Cette dimension-là ne peut raisonnablement pas, je pèse le mot raisonnablement, être évaluée donc, selon la pierre de touche de la rationalité qui n'est elle-même qu'une partie du tout. Et ce n'est évidemment pas parce que le XVIIe siècle l'a promue au rang que l'on sait que, pour autant, elle ne soit pas, pour nous, réductrice. Et d'une certaine manière, elle nous empiège dans ce que l'homme considère comme, d'une certaine manière, son autoproduction. La raison s'autoproduit elle-même. Elle n'a de compte à rendre à personne. Or, c'est bien de cela que nous souffrons aujourd'hui. C'est cette emprise, en quelque sorte, de la rationalité dans sa version à la fois subjective, identitaire et, pourrait-on dire, même narcissique, qui condamne toute possibilité d'ouvrir le questionnement sur l'imagination, sur la folie, sur le rôle de la poésie dans la construction du monde. Il ne s'agit pas seulement, évidemment, de soi en tant qu'individu, il s'agit aussi du rapport et du lien commun qui est en jeu. Parce que, d'une certaine manière, ce qui se met en péril, c'est la construction que je dirais symbolique. Le symbolon grec, à la source, c'est ce qui est à la fois présence et absence, dirait Pascal. C'est-à-dire quelque chose qui tient lieu de cette présence dont nous parlions et qui permet d'ouvrir un espace, d'ouvrir un monde, d'ouvrir la signification, et qui fait aussi, pour moi, dans l'optique de aussi bien Sophocle que d'Aristote, il faut lui reconnaître cela, le sens de la philia. La philia grecque, c'est cette amicalité, je me permets de traduire ainsi en reprenant le terme à Kostas Axelos, cette amicalité, parce qu'entre l'amitié et l'amour, on a perdu aussi le sens profond de ce lien entre mortel et immortel, c'est aussi ce que Antigone défend pour préserver, dit-elle, la sumphilia, c'est-à-dire l'existence de la communauté qui est racinée dans cette proximité à la mort, mais aussi du Dieu à l'homme.
Yeah.
livre.
D'une manière peut-être pas très éloignée de l'esprit grec originel, ou tout au moins de ce que l'on trouve chez certains de ceux que l'on appelle les présocratiques, et je pense particulièrement à Aristote, je voudrais attirer l'attention sur le livre de Jean-Marc Vivenza, Nagarjuna et la doctrine de la vacuité. Nagarjuna, on sait bien que c'est ce philosophe, l'auteur de ce qu'on traduit par le traité de la voie moyenne, qui d'une certaine manière a renouvelé le bouddhisme, si l'on peut dire, dans une querelle extrêmement profonde au 2e et 3e siècle où il vivait avec la logique indienne. Et de ce point de vue-là, évidemment, on peut se reporter aux travaux de Michel Hulin, dont nous avons déjà parlé dans Les vivants et les dieux, et comment il est à l'origine de la tradition que dans le bouddhisme on appelle le grand véhicule, le Mahayana, et particulièrement de l'école Madhyamaka, qui va trouver un prolongement et éventuellement un développement dans le bouddhisme tibétain. Je disais que c'est proche de certaines préoccupations présocratiques, c'est subtilement proche, je dirais, car il faut ne pas s'arrêter évidemment aux différences de langage, il faut ne pas s'arrêter aux différences apparentes de rapport à la nature des choses, et pour voir comme, d'une certaine manière, il y a une position qui est au-delà du oui et du non, qui est une pensée du tréfonds de la non-pensée, qui est extrêmement proche de ce que les Grecs avaient posé, d'une certaine manière, et qui est la découverte de l'apparaître tel qu'il est, et on peut penser évidemment à l'apologue de la montagne, qui est extrêmement connu en Orient, dans lequel on nous dit que lorsqu'on est dans une montagne, on croit d'abord que c'est une montagne, puis il s'agit de se rendre compte que ce n'est pas réellement une montagne, et lorsqu'on aboutit à l'esprit parfait, on se rend compte à nouveau que c'est vraiment une montagne, même si par ailleurs ce n'en est pas une. Et donc, en même temps, cette idée qui est extrêmement difficile pour nous et qui est contraire à la tradition que nous avons d'appréhension de la pensée orientale, que le nirvana est aussi l'absence de nirvana. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le nirvana n'existe pas, il est, et en même temps on est obligé de dire qu'il ne l'est pas, et peut-être cela n'a-t-il pas de sens de dire qu'il est ou qu'il n'est pas. Tout est déjà et depuis toujours libre. Aucune réalisation étrangère à l'éveil, car l'éveil depuis toujours ne cesse jamais d'être en son non-être et de ne pas être en son être. Aucun éveil à atteindre non plus, car il n'y a jamais eu de non-éveil à quitter. Dans un état d'esprit qui n'est pas très loin, je voudrais aussi attirer l'attention sur les deux petits essais de Éric Sablé, que l'on connaît précisément pour travailler énormément dans ce domaine, intitulé « Un grain de sagesse dans la nuit de la modernité », suivi de « L'éveil ou l'humilité parfaite » aux éditions Arma Artis. Dès qu'on a entendu le mot d'éveil, on voit très bien effectivement quelle est la parenté avec quelqu'un comme Nagarjuna, et on ne peut pas dire que Éric Sablé, qui est un occidental, pense le contraire de Nagarjuna, mais beaucoup plus, il y a une sorte de tentative à la lumière du bouddhisme, de penser notre modernité en prenant la modernité au sens le plus courant, au sens quasiment sociologique, c'est-à-dire ce à quoi nous sommes confrontés, nous, dans notre société actuelle. Et où, d'une certaine manière, ce dont il s'agit pour Éric Sablé, c'est de retrouver le sacré dans toutes ses apparences, les apparences étant en même temps de l'ordre de l'apparition, au-delà de ce qu'en philosophie on appelle l'arraisonnement du monde par la techné, par la technique telle que nous le connaissons aujourd'hui. Et il essaie de nous montrer comme quoi l'éveil est humilité, dans la mesure où, s'il n'y a pas d'éveil, chacun, en fait, y est arrivé, et que, d'une certaine manière, c'est sans le vouloir expressément que l'on trouve en l'éveil, et que, sans le savoir, nous sommes toujours en éveil. Et d'une certaine manière, évidemment, cela nous permet de nous considérer d'une manière radicalement différente de ce à quoi nous sommes habitués. Akuin raconta son satori, et Ethan lui demanda: qu'est-ce que ton koan a résolu pour toi? Akuin répondit: l'univers s'est détaché, pas la moindre petite parcelle à saisir. À ce moment, Ethan lui attrapa le nez et le tordit en disant: et cette petite parcelle d'univers, comment se fait-il que je puisse la saisir? Akuin demeura frappé, incapable de prononcer un mot, et Ethan le renvoya en lui disant: quelle arrogance! Enfin, je voudrais terminer par l'essai extrêmement court, mais extrêmement clair, de Sophie Perrenne, La vision paradoxale, ou l'art de concilier les opposés, aux éditions Acarias, l'originel. Qu'est-ce qu'essaie de nous montrer Sophie Perrenne? C'est qu'il n'y a de pensée que dans le paradoxe. De ce point de vue-là, évidemment, elle renvoie à tout ce que nous connaissons des fragments d'Héraclite sur la voie droite qui est la véritable voie de la vis, si l'on peut dire, qui s'enfonce en tournant et qui renvoie en même temps à la notion de la conjonction des opposés telle qu'on va la trouver, par exemple, dans l'œuvre du cardinal de Cuse à la fin du Moyen-Âge, mais telle qu'on la trouve aussi bien dans l'alchimie et telle qu'on va la retrouver dans le siècle précédent, dans l'œuvre fondamentale de quelqu'un comme Carl Gustav Jung. C'est-à-dire cette manière de pouvoir dire une chose, de pouvoir dire son contraire et de les concilier entre elles tout en respectant leurs différences. Et ce à quoi nous sommes renvoyés, par exemple, c'est à la fameuse déclaration que l'on trouve précisément dans l'école de Nagarjuna, selon laquelle le nirvana est ce que les hindous appellent aussi le samsara, ou on peut dire aussi bien l'inverse, à savoir que le samsara, l'illusion, le flux du temps dans lequel nous vivons, est aussi le nirvana, c'est-à-dire la vacuité fondamentale. Et de ce point de vue-là, c'est une sorte d'apprentissage de l'esprit auquel nous sommes conviés pour nous faire sortir de nos catégories mentales les plus habituelles, les plus accoutumées, telles qu'on nous les a apprises. La vision dualiste est mortifère, car elle se nourrit de l'opposition. Elle a besoin d'un ennemi, et quand elle n'en a pas, elle s'en fabrique un. Or, comme le rappelle Popper par exemple, l'orthodoxie est la mort de la connaissance, puisque la croissance de la connaissance dépend entièrement de l'existence du désaccord. La vision paradoxale, c'est alors d'admettre, comme le disait Niels Bohr, que le contraire de la vérité, ce n'est pas une erreur, c'est une autre vérité.
Les livres aujourd'hui, Nagarjuna et la doctrine de la vacuité de Jean-Marc Vivenza aux éditions Albin Michel. Deux petits essais, un grain de sagesse dans la nuit de la modernité et l'éveil ou l'humilité parfaite de Éric Sablé aux éditions Arma Artis. Et la vision paradoxale ou l'art de concilier les opposés de Sophie Perrenne aux éditions Lacarias l'originel. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Jean Lauxerrois. Texte lu par Anne Dupuis et Frédéric Prévost. Réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra.